Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro du carnet de région présenté cette semaine par Radio Margeride. Commençons par un sujet de Radio Alliance Plus. 1517-1917. Partout en France, des manifestations commémoratives sont organisées à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. C'est le cas en particulier à Nîmes. Jean-Christophe Muller, directeur de la Maison du Protestantisme, précise le sens de cet anniversaire et détaille pour nous les principaux événements qui jalonneront cette année.
Célébrer 500 ans de Réforme protestante, je ne suis pas sûr que ce soit la tâche simplement des églises protestantes, même si c'est important pour nous, non pas de célébrer une fidélité à des pères fondateurs, car la Réforme, si elle est un des élans qui a généré l'ère moderne dans laquelle nous sommes, qui l'a rendue possible pour le meilleur et pour le pire, la Réforme n'était qu'une volonté d'essayer d'être fidèle à la source biblique. Aujourd'hui, c'est encore de cela qu'il s'agit. Comment retrouver, redire, formuler le sel, la saveur, la pertinence d'une parole que nous trouvons encore fondatrice, que nous croyons encore vivante et qui a des choses à dire à nos contemporains, au travers de la spiritualité, de la foi, mais aussi de la culture, de nos relations humaines, de l'économie ou de la vie politique. Au fond, c'est une espèce de chantier. Quand Luther a commencé à placarder 95 thèses le 31 octobre 1517, il ouvrait simplement l'appel pour un débat public sur ses thèses sur les indulgences. C'est un peu polémique, un langage fort. Aujourd'hui, on le trouverait presque violent, mais là où il s'attendait juste à un débat universitaire au cœur de l'Allemagne, voilà tout d'un coup qu'il ouvre une aventure sans savoir ce que les pages blanches vont écrire après. C'est insoupçonné et on ne se doute pas de ce qui va commencer. Aujourd'hui, l'aventure continue et elle concerne tout le monde. Là où il y a eu des affrontements, des polémiques, il y a toujours des différences, mais un vent de réconciliation. La 500e année de la Réforme a commencé pour nous à Nîmes, en janvier, par la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui était préparée par des Allemands et sur le thème de la réconciliation. Les différentes églises chrétiennes de Nîmes, catholiques, protestantes, évangéliques, se retrouveront en avril autour de 8 jours sur la Bible avec des lectures publiques, des spectacles, pour montrer que ce que partagent les chrétiens, au fond, c'est un cheminement toujours renouvelé et toujours renouvelant avec les écritures bibliques. Et que là, ils ont en commun un trésor à partager. Et c'est ainsi que le comité des églises chrétiennes de Nîmes participera à ces 500 ans de la Réforme. Pour ce qui concerne l'Église protestante unie, des expositions, dont celle qui commence le 21 février jusqu'au 11 mars à la Maison du Protestantisme, aux sources du protestantisme. Il y en aura d'autres dans le courant de l'année, mais je signale déjà qu'au mois de mai, à la Chapelle des Jésuites, il y aura une exposition sur Sébastien Castellion et la construction de la tolérance religieuse. Des conférences sur le protestantisme et la société en mars, les 1er, 8 et 29 mars. Une rencontre avec le pasteur Gianni Genre de l'église vaudoise italienne sur ces protestants qui ont commencé avant la réforme. Ça, c'est les 25 et 26 mars. Dans le fil de l'année, de mois en mois, une série de concerts, conférences, voyages en Allemagne ou à Rome auront lieu. Ainsi, la possibilité de se questionner, d'échanger. Célébrer un anniversaire, ça n'est pas chercher à embaumer un corps mort, ça n'est pas chercher à dire il n'y a que là qu'est la vérité. Célébrer l'anniversaire des 500 ans de la Réforme, c'est au fond faire le point sur un événement qui a quand même bouleversé l'Europe et avec le développement le monde. Et puis, c'est aussi s'interroger sur ce qui aujourd'hui vaut encore la peine, crie au cœur de nos silences et a quelque chose à nous dire sur l'homme. Au fond, je reprendrai une formule du pasteur et théologien André Dumas. Cette année 2017 qui renvoie à 1517, c'est une occasion de se rappeler que, au moment de la Réforme, il y a eu une protestation pour Dieu et une protestation pour l'homme. Et protester, ça n'est pas râler, ça peut l'être, mais protester, c'est d'abord attester. Dire quelque chose pour, dire quelque chose pour Dieu, dire quelque chose pour l'homme, c'est en tout cas ce que nous voulons partager avec les uns et les autres au cours des manifestations qui seront proposées à Nîmes en 2017.
Deuxième sujet abordé aujourd'hui avec Radio Larzac, parrainer un enfant sénégalais. En effet, dans la commune de Nantes, en Sud-Aveyron, deux habitants ont fondé une association pour permettre la scolarisation d'enfants sénégalais de la 6e jusqu'au bac. Et ils préparent déjà la rentrée 2017 à la recherche de nouveaux parrains.
En Casamance, région excentrée du Sénégal, l'accès au collège n'est pas chose facile. Après avoir vécu à New Moon, Justin et Anou Diédio ont décidé d'organiser, à travers leur association l'Atelier Jade, le parrainage d'enfants pour leur scolarisation. Désormais installés dans le village de Nantes, ils lancent leur campagne de parrainage pour la rentrée prochaine. Justin et Anouk, bonjour.
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 Alors Justin, tu t'apprêtes à repartir au Sénégal. Comment tu vas mêler l'atelier Jade à ton voyage personnel ?
En octobre 2016, j'étais parti au Sénégal pour un système de parrainage. On a pu récolter des parrains, en fait ici dans le Larzac et un peu à Marseille aussi. Et donc, la rentrée, c'était en octobre. Donc là, je retourne pour voir comment ça se déroule et les enfants et aussi...
Il y en a combien pour le moment des enfants parrainés ?
Là, on a 12 pour le moment.
On lance donc, à partir d'aujourd'hui, une campagne de parrainage pour l'année scolaire 2017-2018. En fait, on a commencé cette histoire de parrainage en août 2016.
Alors pourquoi vous avez choisi New Moon ? Pourquoi un collège ? Enfin pourquoi ce niveau et pourquoi cet endroit ?
En fait, comme je suis un enfant de cette île, de ce village, et j'ai fait mes études là-bas, du coup j'ai vu la difficulté des parents par rapport à vis-à-vis financièrement pour les élèves. En fait, moi j'ai subi ce problème. Nos parents, ils n'ont pas tous les moyens pour la scolarisation des enfants. Parce que comme par exemple, tu te retrouves, tu vois un père de famille et sa femme, ils ont 8 gosses. Et tous les 8, normalement, ils vont à l'école. Et voilà, arrivé en troisième ou en certains niveaux, les prix de la scolarisation, ça augmente. Du coup, la plupart des aînés, comme par exemple moi, mon grand frère, il a arrêté ses études pour me laisser la place, pour que mon papa puisse me payer la scolarisation. Et il y avait encore 3 petites sœurs qui étaient derrière. Et donc, au moment, les parents, ils n'ont plus les moyens. Du coup, les grands frères... Ils sacrifient les études, ils abandonnent les études pour que les papas puissent continuer avec les petits frères ou les sœurs. Et du coup, moi, quand je suis arrivé en troisième, c'était les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Du coup, j'ai abandonné les études pour que je donne une chance aussi à mes petites sœurs d'arriver en troisième.
Les dépenses pour l'école, bon, c'est un chiffre. En 2008, il est de 5% à peu près.
5% du revenu des parents ?
Ouais.
Quelles sont-elles ces dépenses pour l'école ? Parce que on pense à l'inscription, mais
voilà. Qu'est-ce alors, qu'il y a d'autre ? Donc en primaire, il y a que l'inscription à payer et voir la cantine. Mais la cantine, c'est 3 fois rien. Après, quand tu commences à arriver en sixième, tu as l'inscription qui déjà est beaucoup plus chère qu'en primaire. Ensuite, tu as toutes les fournitures scolaires, comme chez nous ici en France, plusieurs cahiers, des grands cahiers, des petits cahiers, des calculatrices. Donc ça vaut super cher là-bas. C'est comme un produit de luxe. Ensuite, tu as une tenue vestimentaire. Obligatoire. Il y a la tenue de gym, donc tenue de sport, quoi, avec les baskets, et ça revient cher aussi. Du coup, c'est énorme pour les familles. Ça s'élève en gros à 100 € par an pour pouvoir scolariser un élève.
D'accord, donc ça, c'est ce que vous demandez aux parents.
Nous, c'est ce qu'on demande aux parents, c'est 100 € par an.
Le but de passer par l'association, c'est en fait, bon, là, je connais les difficultés de mes parents. Déjà, si c'était de mon cas, si voilà, l'argent il tombe directement aux mains de mes parents, ils ont encore voilà, plus besoin de cet argent que moi. Ils vont utiliser, peut-être, ils vont prendre la moitié en me disant, voilà, oui, on a reçu que ceci. Ça, ils peuvent le dire chaque année scolaire, chaque rentrée scolaire, il faut que j'aille, comme ça j'achète tout, chaque élève, ce qu'il
D'accord.
faut. Et voilà, sans pourtant pas que l'argent passe par les parents ou par les professeurs et tout ça.
Donc nous, on est voilà, une toute petite asso. Pourquoi ? Parce que Justin, il est de là-bas, parce que moi, j'ai vécu là-bas. Et que je me disais, on peut faire quelque chose. Juste apporter un tout petit... tu vois, c'est une petite goutte dans l'océan. Voilà, nous, on a à cœur de faire quelque chose pour les enfants de New Moon parce que c'est nos enfants, quoi.
Avec ses 6 garçons et 6 filles parrainées pour l'année 2016-2017, l'Atelier Jade lance donc sa campagne pour la rentrée prochaine et espère bien parvenir à couvrir les frais scolaires de tous les nouveaux 6e.
Carnet de région. L'actualité en langue de Croussillon.
Continuons avec Radio Aviva et la Comédie du Livre qui fait son retour du 19 au 21 mai. Notez bien la date de la 32e édition de cet événement littéraire. Après avoir mis à l'honneur l'an dernier l'Italie, c'est la Grèce qui fait l'objet de toutes les attentions cette année. Plus largement, cette édition plonge au cœur de toutes les Méditerranées avec des écrivains venus des rives sud et nord, Algérie, Croatie, Égypte, Espagne, Italie, Tunisie. Au total, près d'une trentaine d'auteurs de 12 nationalités. Comme nous le précise Régis Penalva, directeur littéraire de la Comédie du Livre, cette programmation s'inscrit dans la continuité des éditions précédentes.
Nous continuons à explorer l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, comme nous avons pu le faire en 2013 avec le Maghreb, en 2015 avec l'Espagne, en 2016 avec l'Italie. Mais elle est différente, d'abord parce qu'elle est ouverte, elle est plurielle, elle est ouverte à une douzaine de pays, et elle met un focus particulier sur un pays que nous n'avions pas encore exploré, la Grèce, avec une dizaine d'auteurs qui représentent aujourd'hui la vitalité et l'originalité de la littérature grecque contemporaine.
Une particularité a été relevée pour cette édition avec la bande dessinée, un de ces genres littéraires les plus lus par les Français. Généralement en retrait, la BD et l'illustration auront une place de choix pour cette 32e édition. L'accent est mis cette année sur le travail éditorial de la Contre-Allée, qui offre une programmation en résonance avec la Méditerranée. Cette jeune maison d'édition, fondée il y a à peine une dizaine d'années, a été sélectionnée pour sa qualité des traductions et ses textes engagés. Pas de carte blanche, mais une journée spéciale dédiée à Alain Mabankou. Cet écrivain franco-congolais, romancier, essayiste et poète qui a obtenu le prix Renaudot en 2006. Pour la 3e année consécutive, les préfaces se tiendront, comme son nom l'indique, avant la Comédie du Livre, dans le réseau des médiathèques Pérol, Villeneuve-les-Maguelones, Pignan, Clapiers. 18 communes de la métropole vont accueillir une programmation autour de la Méditerranée. Gilles Gudin de Valerin, conservateur général des médiathèques, nous explique.
Non seulement la littérature, mais on présente aussi d'autres éléments de la civilisation méditerranéenne. Ça peut être des éléments de théâtre, de musique, des contes. Donc ça a une globalité, une culturelle dans la présentation.
Les préfaces durent un mois du 28 mars au 18 mai. La Comédie du Livre est un événement incontournable à Montpellier. Notez qu'elle est l'une des 5 plus grandes manifestations littéraires de France, avec plus de 100 000 personnes attendu. Kesa Pelorio Kezak. 20 ans après la légendaire publicité de Ridley Scott, Kezak revient sur les écrans. En effet, plus de 20 ans après le fameux spot publicitaire tourné par Ridley Scott, l'eau de Kezak va revenir sur les écrans à partir du 11 mars. Le tournage vient tout juste de se terminer. Pour le carnet de région, Ludovic Thérol de 48FM s'est rendu sur place.
C'est une nouvelle campagne de communication qui arrive sur les écrans, lancée par le groupe Au Jeu qui vient de racheter la marque Kezak. Et le mythe va renaître toujours avec la même interprète, Émilie Delaunay, qui avait 11 ans lors de la première publicité et qui en a 33 aujourd'hui. Émilie Delaunay qui va dans ce nouveau spot publicitaire transmettre la fameuse histoire de la source de Kezak à son fils Louis, Émilie Delaunay.
Le tournage s'est très bien passé, on a eu un temps splendide et on a tourné dans des lieux vraiment magiques, magnifiques. La Lozère, c'est très joli, donc ça a été très, très sympa pour ça. Et puis j'ai rencontré un petit garçon qui jouait mon fils, ça me faisait un petit peu peur d'être maman à l'écran. Avec Louis, ça s'est très bien passé et c'est lui qui dit la phrase de fin qui a marqué toute ma génération et d'autres.
L'idée pour le groupe Au Jeu est de lier sa marque à celle d'un territoire. Christophe Labesse, directeur marketing d'Au Jeu.
Peut-être la particularité, c'est d'avoir souhaité mettre la Lozère au centre du dispositif et au centre de ce nouveau film, de ce nouveau très beau film qui sera visible sur kezak.com. La première star du clip, c'est Kezak, en Lozère, et donc c'est la Lozère. Il ne faut pas se tromper. Quézac ne peut exister que parce que la Lozère existe, et nous, on a voulu remettre au centre de notre prise de parole Quézac le fait que la Lozère est l'écrin de cette marque. C'est de revenir à ce que nous sommes, nous, le groupe Augeux, c'est-à-dire nous faisons du marketing territorial. Nous racontons avec nos eaux des territoires, des identités, des cultures. Je dirais qu'à la limite, on prend le contre-pied de l'énorme communication voulue par un très grand groupe pendant des années. On peut aujourd'hui continuer à parler au niveau national d'une grande marque comme Quézac en lui donnant la parole au niveau du territoire. C'est pas du tout contradictoire.
Et l'histoire de cette nouvelle publicité ne se passe pas sous terre, mais bien en plein air. Le spot a été tourné sur le Causse de Sauveterre, à la Malène et au Point Sublime. Emmanuel Granchet, réalisateur.
On a créé un storytelling autour de la légende Quézac, et tout le spot de Ridley Scott se passait dans l'intérieur des terres, mais au sens propre du terme, donc l'eau dans les grottes, l'eau qui remonte de la terre, etc., avec un côté très sombre, moyenâgeux, plutôt nuit d'ailleurs, qu'avec un plan de sortie, qu'on va dire, plein jour. Et l'idée de Quézac, là, était de dire, on est 20 ans plus tard, même 1000 ans plus tard, et la petite fille est devenue maman, donc on se projette vers l'avenir. Et si on se projette vers l'avenir, alors on décide de sortir et d'être sur les extérieurs, sur les côtes, voilà, et d'arriver jusqu'aux gorges du Tarn et de montrer surtout des vues spectaculaires de la région et de donner cette image ouverte vers l'avenir pour la suite de l'histoire, en fait, la suite de la légende et la suite du spot.
Et le spot sera visible uniquement sur Internet pour l'instant. Un partenariat a été conclu avec France Télévisions pour parrainer des émissions qui renverront sur le site de Quézac. Ainsi, jusqu'en juin, Quézac parrainera les fictions du mardi, jeudi, vendredi et dimanche, ainsi que les émissions Les Carnets de Julie, Les Escapades de Petit Renaud ou Les Petits Plats de Babette. Et le conseil départemental s'associe à cette communication. Un lien renverra vers le comité départemental du tourisme pour gagner 7 séjours sur le département de la Lozère. De plus, entre juillet et septembre, le département va apposer son logo sur 1 million de packs d'eau, une communication grand public gratuite. Écoutez Sophie Pantel, présidente du conseil départemental de la Lozère.
C'est une très belle opportunité pour le département de la Lozère, l'ensemble du territoire, tous les prestataires, grâce à l'entreprise Augeux, que je remercie parce que qui joue vraiment le jeu du territoire. Et c'est quand même la première fois qu'il y a une démarche à la fois entre un institutionnel, donc en l'espèce le département et Lozère Tourisme, qui est notre bras armé sur ce dossier-là. Et puis évidemment, un grand groupe industriel en matière d'eau.
Et le clip complet sera visible dès le 11 mars sur le site internet de Quézac. Enfin, terminons avec un sujet d'RPH. Avec le projet de golf sur le domaine de Lavagnac, il y aura-t-il assez d'eau pour tout le monde ? La question se pose sur le territoire de l'Hérault. Le projet de golf sur le domaine de Lavagnac à Montagnac, commune de 4000 habitants, et le captage de l'eau du fleuve Hérault inquiètent les habitants et les agriculteurs qui vivent le long du fleuve. Tous les petits villages comme Pollan, Bellarga ou encore Adissan captent son eau et comptent dessus. Il y a peu d'informations sur ce nouveau complexe de luxe et golf 9 trous, mais beaucoup d'inquiétudes quant à son alimentation en eau. C'est dans une grande confusion que s'est tenue une réunion publique à Saint-Pargoire, mardi soir. Reportage de Sarah Gilman de RPH Radio Pays d'Hérault.
La petite salle Maxpo de Saint-Pargoire est pleine à craquer ce soir. On y voit des curieux, des élus et surtout des agriculteurs locaux venus en nombre. Tous veulent connaître les tenants et les aboutissants de ce projet gigantesque du golfe de Montagnac, mais surtout ce que ça va leur coûter en eau. Le golfe aurait, selon les prévisions, une consommation annuelle de 250 000 mètres cubes, un chiffre exorbitant selon la maire de Saint-Pargoire, Agnès Constant.
Nous avons des prélèvements qui sont limités et nous nous inquiétons à juste mesure des prélèvements futurs opérés dans le fleuve Hérault de par la nouvelle population qui va arriver et l'arrosage du golfe. Nous n'avons pas d'informations écrites sur ce qu'il en deviendra des prélèvements et des captages au niveau de l'eau. Donc tant qu'on ne le voit pas écrit, on s'inquiète. C'est un peu surtout le tissu économique, en particulier à travers l'économie agricole, par rapport à l'irrigation, parce que les temps changent et maintenant la vigne a besoin d'être irriguée ainsi que le maraîchage. Et d'autre part, l'urbanisation. parce que nous sommes contraints à limiter notre urbanisation si nous ne pouvons pas apporter l'eau potable aux habitants. Nous, nous avons fait un stade synthétique pour ne pas arroser, pour ne pas gaspiller de l'eau. Et à côté, on voit un golfe qui émerge et qui sera irrigué. Et les agriculteurs demandent des autorisations de prélèvement pour irriguer. Pour l'instant, ils n'y ont pas droit. C'est le paradoxe qui fait mal et qui inquiète beaucoup.
Et Guillaume ne dira pas le contraire. Ce viticulteur de Bellarga voit forcément ce projet d'un mauvais œil. Lui qui, chaque année, subit les restrictions d'eau dues à la sécheresse.
Le projet de golf, c'est quand même un projet qui va être très coûteux en eau. Nous, par exemple, sur la commune de Bellarga, nous n'avons pas l'eau. Les autres communes qui avaient l'eau ont des quantités qui sont réduites. À un moment donné, il va en manquer pour tout le monde, quoi. Ce projet, je pense qu'il est un petit peu malvenu dans la mesure où ce qu'on prend à Paul, on va le mettre à Jacques et vice-versa, et ça peut pas aller, quoi. On est au bord de l'Hérault, mais on n'a pas le droit de pomper. Il y a des lois qui nous interdisent de pomper dans l'Hérault, donc on ne pompe pas. Mais on aimerait bien que, collectivement, le dossier d'irrigation soit mené à bien. On n'est pas là à titre personnel, on est là à titre collectif, quoi. Voilà. Et ça monte d'Agnane et ça descend plus bas. Ça fait 3 ans qu'on a des conditions climatiques, notamment estivales, qui sont très dures. Et donc la récolte s'en ressent. Si on donne l'eau à Pierre, Paul ou Jacques et pas au secteur agricole, mais ça va mettre à mal le secteur agricole qui n'a pas besoin de cela, quoi.
L'alimentation en eau de la zone est réglementée par un décret qui date du 19e siècle. Sauf que les choses ont bel et bien changé. Plusieurs élus locaux ont alerté le préfet de l'Hérault dans une lettre, dont Audrey Humbert. Elle est l'élue départementale du canton de Mèze.
Vu que ce décret est très très ancien et que ce projet a entre guillemets capoté plusieurs fois, donc il est vrai que les gens ne sont pas été sensibilisés par ça. Le changement climatique et les répercussions, on les voit maintenant. On en parlait moins il y a 10 ans. Maintenant, c'est du concret. Hein. On voit qu'il y a de fortes précipitations où justement tout déborde et puis nous sommes inondés. Mais on voit aussi la sécheresse en été, on ne peut pas arroser. Et puis, étant donné le changement climatique, nos vignes ont besoin d'eau qu'elles n'avaient pas peut-être besoin il y a 10 ans. Donc oui, on alerte réellement parce qu'il faut vraiment se rendre compte du manque d'apport d'eau. Et donc, on ne peut pas laisser quand même faire un projet aussi pharaonique s'il y a des besoins pour l'irrigation. Tout ce que je sais, c'est que ça va faire quand même à peu près 2000 personnes sur l'apport sur cette base de Lavagnac. Donc 2000 personnes qui ont besoin d'eau potable également, ainsi que d'eau brute, oui, pour ce golf. Et puis avec aussi toute maison avec des piscines. Donc je ne sais pas si c'est le lieu idéal pour avoir construit ce projet. Je ne permets pas de le juger. Ce n'est pas moi qui le fais. En tout cas, ce que je sais, c'est que nous, Héraultais, nous avons besoin de l'eau. Et donc, nous avons besoin d'irriguer. Et donc, c'est vrai que ce projet est pour l'instant disproportionné par rapport à l'apport à nous du fleuve Hérault. Après, peut-être qu'il y aurait d'autres solutions qui pourraient être trouvées. Hein, là, je suis sûre qu'il doit y en avoir d'autres. Mais aujourd'hui, c'est une hérésie de venir puiser dans le fleuve Hérault tant de capacité à nous.
À noter l'absence du maire de Montagnac à cette réunion. À ce jour, rien n'est fait. Le projet de golf est à l'arrêt. Et sur les 180 hectares, pas l'ombre d'un green. Seuls 3 appartements témoins ont pointé le bout de leur nez.
C'est déjà la fin de ce carnet de région, présenté cette semaine par Radio Margeride. On se retrouve la semaine prochaine.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Gard.
Lozère.
Aude.
L'actualité en langue de Roussillon.